Hello, hello, bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens qui veulent se simplifier la vie, le boulot et la vie au boulot. J'ai lu ton mail. Cher ami productif et serein, cher ami productive et sereine, si tu te demandes comment tu vas faire cette semaine pour le rester, ne te demande plus et écoute. J'espère pouvoir te donner dans cette émission quelques clés. Ok, donc cette semaine, de nouveau avec mes deux comparses,
Geoffrey Ozou,
Jean-Philippe Mollet.
Cette semaine, je vais vous parler d'un outil d'auto-coaching. Jean-Philippe vous évoquera un TED Talk « Être heureux pour être productif ». Et Geoffrey, le livre de la semaine, c'est « 168 heures » de Laura Vanderkam.
Donc Romain, tu vas nous parler d'un outil de coaching qui s'appelle la roue du coaching.
Alors oui, je vais vous parler de ça parce que c'est un truc que j'ai découvert donc dans ma formation de coach. C'est quelque chose qui est assez connu des coachs, hein, cette roue-là. L'utilisation dont je vais vous parler, dont je vais essayer de vous décrire, elle est super parce qu'elle permet de s'auto-coacher quelque part. Donc c'est quand même toujours sympa quand on arrive à avoir des outils qu'on peut utiliser sur soi-même. Alors en l'occurrence, c'est quoi ? Donc la roue au départ, c'est donc une roue, hein, c'est-à-dire un rond, un cercle, qu'on va diviser en différents secteurs. Comme on pourrait imaginer des parts de pizza ou des parts de tarte. D'accord ? Donc différents secteurs. Alors si vous le faites à la main, je vous invite à trouver des nombres pairs quand vous ferez vos divisions. Mais voilà. Et donc on va s'en servir par exemple dans le cas où on aurait une décision à prendre et on n'arrive pas à prendre ces décisions parce qu'on n'arrive pas. On se dit, je ne sais pas trop, je vais la remettre, oui mais il y a ça, si je fais ça, ça m'emmène ici, mais en même temps ça, du coup j'ai plus cette chose-là après, etc. Bref, on est très indécis par rapport à ça. Et donc là l'idée, ça va être de se dire, ok, je vais poser ça un peu sur le papier et je vais d'abord faire la liste de tous les secteurs de ma vie qui sont impactés par cette décision-là. Impacté n'étant pas un mot français, mais enfin, je me permets. Quoi. Donc, tous les secteurs qui vont être touchés par ça. Du coup, mettons que j'ai une décision à prendre, voilà, hein, et je me fais cette liste-là. Donc, je retrouve avec, je ne sais pas moi, 7, 8, 10 peut-être. On essaie de ne pas trop.
Tu peux nous donner des exemples de secteurs ? Qu'est-ce que tu appelles un secteur ?
Ah ouais, c'est très divers parce que ça va dépendre en fait de la décision en question. Tu vois, si je me dis par exemple, ah bah tiens, j'arrête tout aujourd'hui, j'arrête d'être coach et puis je deviens un guitariste manouche professionnel. Voilà. Et là, forcément, c'est une décision qui va avoir pas mal d'impact.
Tu te poses cette question vraiment,
à différents secteurs. J'ai pas le niveau pour me poser des questions. À différents secteurs. Du coup, on va voir quoi qui va être impacté. On va avoir les finances, évidemment. Ça risque d'avoir un impact là-dessus. Ça va avoir un impact sur mon temps disponible. Ça va avoir un impact sur, je sais pas, sur
tes heures de travail.
Mes heures de travail, sur ma vie familiale peut-être aussi.
Ton image sociale.
Aussi, voilà. Il peut y avoir tout un tas de choses. Donc voilà, exactement, je vais faire cette liste-là. Et je vais me retrouver donc avec certains critères, on va dire. Je vais attribuer à chacun de ces critères une part de la tarte de tout à l'heure. Hein, donc, je fais mon petit cercle. Si j'ai 8 critères, tant bien, ça tombe très bien. Je me fais un cercle avec 8 parts, c'est facile à faire à la main, nickel. Voilà. Et ensuite, je vais faire deux versions de ce cercle-là. Je vais faire une première version, donc je vais les mettre côte à côte. C'est important que ça soit visuellement au même endroit. Donc, je vais m'en faire deux ronds comme ça, côte à côte. Donc, c'est deux ronds identiques, hein, qui ont le même nombre de secteurs. Je vais mettre évidemment les secteurs au même endroit, histoire que ça se parle quand même. Donc si par exemple je me dis les finances ça va être mon premier secteur en haut en partant sur la droite, évidemment ça sera le même sur toute la roue, ça va être les mêmes roues. Et je vais me dire ok, cas numéro 1, je reste coach formateur GTD et donc je remplis ma roue en me disant ok, ce secteur là, si je continue dans si je prends cette décision là de rester ce coach formateur GTD, ça donne quoi? Et donc je me dis par exemple finances, ça va être, et je gradue comme ça cette part de tarte. Je vais la graduer de 0, 0 étant le centre, jusqu'à 10, 10 étant l'extrémité. Et ce que je gradue comme ça, c'est sur une échelle de 1 à 10, c'est l'impact positif que ça a. Et donc plus ou moins positif, on n'est jamais dans le négatif, mais voilà. Et donc si, mettons que je gagne extraordinairement ma vie en étant coach formateur GTD, je vais mettre un 8, 9, un truc comme ça, vraiment bien élevé. Et si je me dis, ouais, guitare jazz manouche, le temps que ça arrive d'être un petit peu plus du rail, et du coup, quand je serai au moment de faire la roue pour la décision de guitariste de jazz, à ce moment-là, je remplirai ma part de tarte, pardon, et cette fois-ci, je la mettrai peut-être à 3, 4. Oui. Et donc en fait je vais faire ça, non pas secteur par secteur, mais le mieux c'est de le faire roue par roue pour rester dans la même décision, c'est-à-dire je me dis ok, première roue c'est je reste coach formateur, et je remplis tous mes secteurs comme ça, donc, et je le remplis mais vraiment graphiquement, c'est-à-dire que je me fais une petite gradation comme ça sur le côté de 0 à 10, Et je remplis, c'est-à-dire que je colorie l'intérieur comme, de ces trous-là pour bien vraiment avoir un impact visuel de la chose. Et je fais ça pour chacun des secteurs. Et ensuite, de quoi ? Je me dis, OK, là, j'ai fait ma première décision. Maintenant, je me mets dans la décision, je prends la décision jazz manouche et je prends ma nouvelle roue du jazz manouche, hop, qui est toute vierge comme ça, et je refais ce même travail d'évaluation de 1 à 10 de l'impact de la décision sur tel et tel secteur de ma vie. Et vous allez retrouver à l'issue, avec deux roues qui sont donc côte à côte, et visuellement, la décision va vous sauter aux yeux, c'est vraiment très étonnant. C'est-à-dire que vous aurez une roue qui va vous parler, mais tellement plus que l'autre, que la décision, elle est prise, quoi. Et après, est-ce que j'accepte ou pas ma décision ? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, vous voyez bien l'impact qu'il y a, de quel côté l'impact positif va vous entraîner.
Donc, c'est une représentation dessinée des critères qui vont nous permettre de prendre une décision.
Exactement. Et c'est extrêmement efficace.
Et plus la roue est pleine, plus ça a de sens, en fait.
Bah parce puisqu'on est sur l'impact positif, en fait, de la décision, effectivement, plus c'est plein, a priori, plus c'est la bonne décision.
Et est-ce que tu aurais un exemple de décision que ça a aidé à prendre à quelqu'un que tu coachais sans être trop précis, mais quand même pour qu'on puisse comprendre ?
En transition de vie, oui, j'ai eu des gens qui ont pris des décisions assez importantes de changement de poste, en fait. Alors, Jean-Philippe, tu vas nous parler d'un TED Talk que tu as vu récemment et en gros qui dit qu'il faut être heureux avant d'être productif.
Ah ouais, non, mais le truc est juste énorme. C'est un TEDx que j'ai écouté là il y a pas longtemps sur les conseils d'un très bon copain et c'est le TEDx de Sean Acker, voilà. Et lui, il préconise en fait non pas d'être productif pour être heureux, mais d'être heureux, et ça va nous rendre productifs et ça va nous permettre de libérer tous nos potentiels.
Aha.
Le gars, il a un sens de l'humour qui est vraiment extraordinaire. Et pendant 12 minutes ou 18 minutes que dure le TEDx, vraiment, j'ai rigolé, quoi. Il a produit beaucoup d'hormones de joie. Vraiment, il est vraiment fandard. Et pour autant, c'est assez étonnant et assez révolutionnaire ce dont il parle. Donc en fait, il s'est rendu compte au cours de ses recherches que les personnes qui étaient joyeuses, qui savaient cultiver le bonheur, la production de la dopamine, c'était vérifiable. Véritablement, ils étaient 31% plus productifs. Quand ils étaient commerciaux, il y avait 37% de plus de ventes. Et pour les médecins, ils avaient 19% de chances en plus de faire un bon diagnostic.
Ah oui, c'est quand même.
Oui, donc c'est... alors après, je ne sais pas comment il a fait ses calculs, etc. Mais enfin, bon, ça se pose. Il explique qu'en fait, 25% des réussites professionnelles sont dues juste au QI, c'est-à-dire aux capacités intellectuelles des gens. Et que 75% des réussites professionnelles dépendent de l'optimisme, de l'environnement relationnel, si le stress est pris comme un challenge ou comme une menace. Et donc, il s'est demandé, comment est-ce que moi... je vais pouvoir rechercher ce qui fait que certaines personnes ont plus d'aptitude d'une certaine manière à l'optimisme pour qu'on puisse les imiter et avancer tous beaucoup plus dans cette voie. Voilà. C'est un début de recherche sur la philosophie positive. Et ce que j'aime... Et donc, je me suis lancé là-dessus. Donc, dans 3 semaines, je vous dirai ce qu'il en est.
On a hâte.
C'est qu'il y a 21 jours où on va pouvoir mettre en place des choses très simples. Très, très simples. Il appelle ça « train the brain ».
Donc, entraînez votre cerveau.
Entraînez votre cerveau en 4 étapes. Alors, la première chose, ça va être de noter le matin ou de se remémorer 3 choses très réjouissantes qui se sont passées la veille. Ça a été repris par 3 kiffs par jour. En fait, voilà, 3 choses réjouissantes qui sont arrivées la veille. Même avec les choses réjouissantes, on va faire un journal. C'est-à-dire que il y a beaucoup de conseils comme ça, d'être diariste, de faire un journal. Ben là, simplement, on peut commencer par une petite chose. C'est exprimer, décrire une expérience positive. Et alors, ça permet au cerveau de la revivre et de nous mettre dans de meilleures dispositions. Également, bah, il va proposer une méditation par jour. À mon avis, on doit pouvoir le faire avec la cohérence cardiaque. L'intérêt de la cohérence cardiaque, c'est que on n'a pas besoin de méthode particulière ou d'habitude. C'est simplement suivre une bulle qui monte et qui descend pendant 5 minutes. Donc voilà, c'est très simple. Et puis, quelque chose que j'aime bien, c'est de faire des actes de gentillesse gratuites. Ça peut être un mail de félicitations ou de remerciements à quelqu'un de notre entourage. Au moins un par jour. Voilà. Et si on fait ça pendant 21 jours, eh ben, on est super heureux. On devient président de la République et ses cheveux repoussent.
Et on pourra dire... J'ai lu ton mail.
Et on pourra dire, voilà, j'ai lu ton mail. Voilà, avec de remerciements, exactement, de sourire. Donc, ben, je me lance et dans 21 jours, je vous dirai ce qu'il en est.
Ça marche.
Moi, j'ai remarqué que tu avais transporté mon sac d'une salle à l'autre sans que je demande rien du tout. J'ai beaucoup apprécié. Merci ton, voilà, ton petit geste.
C'était mon geste gratuit du jour.
Okay, j'ai un autre geste gratuit à te demander tout à l'heure. Donc,
c'est quand tu demandes, ben ouais, mais si tu demandes, c'est plus gratuit. Ouais.
Cette semaine, c'est un livre en anglais, parce que j'ai cherché, mais il n'a pas été traduit en français, qui s'appelle 168 heures, 168 hours, de Laura Vanderkam, aux éditions Pingouin. Voilà. C'est un bouquin qui est sorti en 2010, et on est sur un type de bouquin plutôt trucs et astuces, les tips, etc., sur comment gérer son temps. Voilà. Donc elle part, elle a quatre différents points dans le bouquin. D'abord, se réapproprier son temps. Elle donne un exercice qui est assez intéressant, qui est de dire, si on demande aux gens, si vous aviez 15 minutes de plus par jour, qu'est-ce que vous feriez? Et là, il y a toute une liste. Alors les gens s'excitent, etc. Ah, moi je reprendrais le violon, je me mettrais au piano, je ferais de la peinture, tout un truc de malade. Et après, elle rentre, et c'est un outil qu'elle maîtrise bien, donc qui est une deuxième grosse valeur ajoutée du bouquin, c'est tout ce qui est time tracking, time log, prendre conscience de son temps. Donc elle rentre là-dedans, elle dit, bah, regardez comment est-ce que vous utilisez votre temps, et je suis à peu près certaine que vous allez trouver les 15 minutes dont vous avez envie pour enfin vous mettre au piano, enfin écrire le bouquin que vous avez envie d'écrire, ou autre chose. Voilà. Donc elle commence par cette petite approche de manière anecdotique, et après la grosse valeur ajoutée du bouquin, c'est vraiment sur faire son time log. Comment on le fait, comment ça se pratique, quand est-ce qu'on le fait, etc. Donc vraiment, ça permet d'identifier comment est-ce que je passe mon temps, combien de temps je passe devant la télé ou sur des activités qui sont peut-être pas forcément productives ou qui sont peut-être pas forcément dans mes priorités. Et tant qu'on ne fait pas émerger la manière dont on passe son temps, c'est extrêmement difficile de se réapproprier son temps et donc de mettre en place ses propres priorités. La question de l'élément de tracking, comment est-ce que je note souvent, en fait, c'est tout simplement noter son temps.
D'accord.
On peut le faire sur papier, avec un petit carnet, on peut le faire sur Excel. Il y a des dizaines et des dizaines d'applis sur iOS ou sur Android qui permettent de faire ça. Il y en a une entre autres qui est gratuite qui s'appelle Toggle, T-O-G-G-L, qui est assez complète.
Donc concrètement, dans la semaine, je vais, ou dans une journée, je vais regarder combien de temps je passe à quoi.
Alors la préconisation, c'est de le faire au moins sur une semaine, si ce n'est deux. Et pas de le faire juste sur un secteur de vie. Ah bah, je vais juste monitorer mon temps sur la partie professionnelle. Non, l'idée, c'est de calculer la totalité du temps passé sur l'ensemble des tâches. Même la nuit, lorsque vous dormez, vous mettez votre timer lorsque vous vous couchez et vous l'arrêtez lorsque vous vous réveillez. Voilà. Donc du coup, on a une vraie visibilité sur les 168 heures qui sont 24 heures fois 7, égale 168.
Ah, c'est ça.
Merci Romain. Voilà, donc,
il fait bien la surprise. Hein.
Ouais. Tout à fait. Voilà, et donc du coup, on a vraiment la visibilité. Et une fois qu'on a fait le tracking et noté, quel que soit l'outil qu'on utilise, après on comptabilise, au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, on dit voilà, qu'est-ce que j'ai passé dans quel type d'activité. Voilà. Après, elle va un peu plus loin, elle décortique gestion du temps à la maison, gestion du temps au travail, et comment se débarrasser des petites tâches qui nous polluent. Elle dit un truc qui est assez marrant, elle dit bah, y a peut-être des choses que vous pouvez ignorer, juste ne pas faire. Alors, bien évidemment, sans se mettre à risque, soyons clairs. Mais finalement, on le fait tous, parce qu'on a tous des choses qui nous arrivent et on ne gère pas forcément 100% de notre flux entrant. Donc, il y a déjà des choses qui tombent parce qu'on choisit que ce n'est pas prioritaire, etc. Donc là, peut-être le faire de manière conscientisée. De dire, voilà, je choisis de ne pas faire ce nombre de choses. Minimiser tout ce qui peut l'être et outsourcer, donc déléguer tout ce que je peux, parce que finalement, c'est comme ça que je vais me réapproprier mon temps. Voilà, dans les tips et astuces également, elle dit, si vous voulez passer au niveau suivant, assurez-vous de bien connaître comment fonctionne le niveau suivant. C'est-à-dire, quelles sont les métriques, quelles sont, si vous voulez, être meilleur dans votre boulot, être plus rapide, être plus efficace, etc. Comment ça fonctionne, vous, au niveau supérieur? Quels sont les critères de réussite? Quelles sont les choses à traquer pour savoir que vous êtes vraiment passé au niveau suivant?
D'accord, donc il faut se faire un schéma de la destination avant de savoir comment on va y arriver, quoi.
Voilà, tout à fait. Et tout ça, ça va vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, selon Laura Van Der Kamp.
Donc 168 heures par semaine.
Exactement.
J'ai lu ton mail, c'est fini pour cette semaine, l'émission des gens productifs et sereins. Je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire sur le forum des gens productifs et sereins qui va se trouver sur forum.gtdfrance.com et que si vous n'avez pas déjà de compte, vous pouvez le créer, c'est gratuit. À la semaine prochaine.